Bonjour à toutes et tous. Bienvenue à cette séance d'un nouveau rendez-vous. Et oui, rendez-vous compte que l'on inaugure ce soir, qui s'appelle Histoire de restauration. Et donc, on avait l'envie, parce qu'on a eu déjà eu l'occasion de faire une séance avec la direction du patrimoine du CNC, qui nous avait beaucoup beaucoup plu. Et donc, on a eu envie de continuer le compagnonnage. Donc, avec cette idée qu'il y ait avant la présentation d'un film restauré, et d'une présentation des différents enjeux esthétiques, économiques, juridiques, d'un historique, bien sûr, d'une restauration. Et donc, et je dois dire que c'est une grande joie quand même. On dire qu'on commence assez fort avec la Croisière jaune. Et c'est vrai que c'est un film aussi qu'on attendait un petit peu dans notre équipe. J'ai un collègue qui avait commencé il y a 2 ans à voir. Et puis donc, tout ça s'est mis en place pour que la Croisière jaune nous arrive ce soir, restaurée. Et puis aussi, je vais le éditer assez magnifiquement. Hein. Enfin, je vais enlever assez. C'est vraiment magnifiquement. Par Carlotta. Donc il y a un livre DVD qui est absolument... J'ai eu l'occasion de passer un petit peu de temps avec. C'est une très bonne compagnie. Et donc on peut retrouver notamment le journal d'expédition d'André Sauvage, et puis aussi, ça fait la transition, Béatrice de Pastre, hein, qui a édité ce carnet de voyage, et puis qu'on a la chance d'accueillir ce soir, parce que c'est une grande spécialiste du film. Je vous demande de l'accueillir aussi. Donc, Béatrice de Pastre est directrice adjointe de la direction du patrimoine au CNC et directrice des collections du CNC. Voilà. La Croisière jaune, une épopée cinématographique à restituer, donc on va tout savoir. Merci beaucoup, ou presque, ce que le temps nous donnera en tout cas. Merci.
Bonsoir, merci d'être là ce soir. Merci au centre et à la Cinémathèque du documentaire de nous avoir proposé d'ouvrir cette nouvelle case de programmation avec effectivement une histoire absolument incroyable qui est celle de la Croisière jaune. Je ne pourrais pas tout vous raconter sur la Croisière jaune. Je ne rentrerai peut-être pas profondément dans les problèmes juridiques et les enjeux juridiques qu'il y a eu sur ce film et puis sur tout ce qui s'en est suivi, mais essayer de vous raconter un peu l'histoire quand même de ce film, parce qu'il y a, je pense, pas beaucoup de films documentaires qui ont connu une telle préparation, un tel investissement financier et au final un énorme succès, effectivement, quand il est sorti, mais aussi une vision moindre que ce qui avait été espéré par les réalisateurs. Et on essaiera de comprendre un peu pourquoi. Et puis, on va rentrer après dans la cuisine, la cuisine de la restauration, puisque c'était un peu ça la commande de la Cinémathèque du Doc, donc sur cette case consacrée à la restauration. Essayer de vous expliquer un petit peu comment est-ce qu'on procède pour restaurer un monstre de ce genre et les dispositifs qu'on a mis en place, notamment grâce à Carlotta, qui a accepté non seulement d'éditer le film La Croisière jaune, monté par Léon Poirier à partir des images tournées par l'équipe d'André Sauvage, mais aussi tous les courts-métrages qui ont été réalisés après la vente du film par Pathé à Citroën, le rachat en fait du film par Citroën, et la vente par Citroën à, on ne sait pas exactement qui ni comment, ça reste un point mystérieux, donc la vente des images qui ont servi à faire d'autres documentaires. Donc ce qui est intéressant, c'est cette circulation des images, et pour clore, si vous voulez, enfin certainement provisoirement, cette circulation. Nous avons essayé de faire un montage, un bout à bout plutôt, qui essaye de restituer en fait l'ensemble de la croisière. Voilà, donc je vais un peu vous présenter tout ça. Et ben, je commencerai par un générique. Puisque un film, ça commence par un générique. Donc, pour dire que ce travail a été rendu possible grâce d'abord à un accord juridique entre la succession d'André Sauvage, représentée par Maître Dominique Sauré, et la société Citroën, après de très nombreuses années de conflits autour de la paternité d'André Sauvage sur les images de la croisière jaune. De nombreuses années de blocage du film qui ont empêché sa circulation. Et donc, cette résolution juridique, si vous voulez, a permis, depuis 10 ans, qu'on puisse travailler à ce travail. Ensuite, il y a eu le travail de mes collègues Cécile Rogue et Éric Glonnet. Cécile est ici présente, qui ont analysé tout le matériel qui était conservé au CNC, en permettant ainsi de sélectionner les éléments propices à la restauration. Et puis après, il y a eu la phase restauration. Là, c'est mon collègue Daniel Borenstein qui a suivi la restauration qui a été effectuée au laboratoire Eventi. Et puis Simone Appleby et Arnaud Muller qui m'ont accompagné dans la conception de ce bout à bout que l'on appelle l'autre croisière. La Fondation Jérôme Sédou-Pathé a mis à ma disposition, il y a 10 ans, alors qu'elle était encore place Clichy, les archives non inventoriées qui sortaient de caisse, les archives donc Pathé sur la croisière jaune, et qui ont permis de, vous allez voir, de vraiment recontextualiser tout le montage du film et aussi un contexte technologique et économique. Qui est vraiment tout à fait passionnant pour comprendre comment cette aventure cinématographique se met en place. Et puis également le dialogue qui s'instaure pendant le voyage entre André Sauvage et l'équipe de Jacques Pathé. Alors, bien évidemment, dialogue par courrier interposé et qui mettent évidemment 3 semaines, 1 mois à parvenir au destinataire, ce qui fait que les consignes données ne sont pas toujours appliquées aussi rapidement que l'aurait souhaité la maison Pathé. Et puis aussi, il y a les descendants donc, d'André Sauvage, notamment Agnès, la fille d'André Sauvage, qui s'est battue pendant des années pour la reconnaissance des droits de son père. Et tout ce travail lui est dédié. Et aujourd'hui, Nicolas Sauvage, son neveu, qui a pris la succession de cette défense et qui a confié les archives familiales au CNC, qui nous ont permis donc, d'avoir accès à toutes ces lettres qu'André Sauvage a envoyées à son épouse Alice et qui nous permettent en fait de suivre le voyage d'une façon intime. Comment est-ce qu'André Sauvage l'a vécu? Il y a eu plusieurs recensions, on va dire, officielles de la croisière, mais là on a une vision, on va dire, sans filtre, sans autocensure, en fait, de qu'est-ce que c'était de ce parcours. Et c'est ça qui rend bien ce travail autour de cette correspondance tout à fait émouvant et éclairant en même temps sur comment est-ce qu'on peut vivre ce type de voyage, d'expédition, entre des aspirations esthétiques, professionnelles, et bien une volonté d'un commanditaire qui n'est pas forcément en adéquation avec ses aspirations esthétiques. Voilà, et puis donc Carlotta, bien évidemment, qui nous permet d'être là ce soir, hein, grâce au risque qui a été pris de faire cette publication. Donc ça, c'était le générique de début. Nous en arrivons donc à qu'est-ce que c'est que la croisière jaune. Alors c'est effectivement une grande aventure humaine, technologique, mais c'est surtout un coup publicitaire dans la lutte que se livrent sans merci les deux grands constructeurs français, bien évidemment. Il s'agit également d'affirmer, hein, des rives de la Méditerranée à la mer de Chine, l'hégémonie industrielle de la France, et solliciter le cinéma pour témoigner de ces deux entreprises en monopolisant des ressources technologiques à l'époque de pointe. Alors, les grandes expéditions connurent leur apogée au long du XIXe siècle, à une époque où les zones blanches sont encore nombreuses sur le planisphère. Dans les années 20, bien évidemment, ces zones blanches se sont très nettement réduites et les expéditions sont tombées en désuétude. Mais les raids automobiles lointains vont raviver cette tradition, même s'il n'est plus question en fait de campagne publicitaire que de donner des couleurs à la carte du monde. Il s'agit, vous allez l'entendre, d'un vaste programme de développement mondial d'expansion française par l'automobile. En 1928, André Citroën est décidé à marquer les esprits. Il a déjà monté deux croisières, une en 1921 dont l'itinéraire traverse le Sahara, hein, des rives de la Méditerranée jusqu'à Tombouctou, et puis en 1924 la traversée du continent africain d'ouest en est jusqu'à Madagascar, qu'on appela la croisière noire. Alors cette croisière noire a donné lieu à un film, mais avait donné lieu en 1923 à un banc d'essai déjà cinématographique qui avait été pris en charge par Castelnau, qui avait été un opérateur au service cinématographique des armées et qui a travaillé également pour Albert Kahn et qui fait des carnets, une sorte de carnet de notes cinématographiques préparatoires à la croisière noire. Donc on a deux restitutions cinématographiques de ce voyage. Mais là, il est question d'aller encore plus loin et plus fort, si on peut dire. Et il veut monter une expédition inédite qui lui permettrait de promouvoir ses véhicules et une technique qui lui tient particulièrement à cœur, ce sont les chenilles Kégrès, qui ont été mises au point avant la Première Guerre mondiale et que Citroën veut développer. Alors, il envisage deux itinéraires, le pôle sud ou la route de la soie. Et ça aurait été la croisière blanche, je suppose, si ça avait été le pôle sud. Mais il y a certainement plus d'automobiles à vendre sur le long de la route de la soie, ce qui nous permet d'avoir la croisière jaune. Alors, pour commencer, j'aimerais que l'on regarde ensemble le prologue en fait, du film, qui va nous permettre de comprendre bien quel est le contexte de la croisière. Il faudrait mettre le son.
Expansion française par l'automobile, M. André Citroën a depuis 12 ans organisé à travers des régions jusqu'alors impénétrées tout un cycle d'expéditions. Le 7 janvier 1923, utilisant le propulseur Achille inventé par l'ingénieur Kégrès, les 5 voitures du raid Citroën, première mission à au point du Rhône, atteignaient Tombouctou, ayant traversé le Sahara en 22 jours par un itinéraire qui est demeuré la voie d'accès terrestre vers l'Afrique occidentale française. En 1924-25, c'est l'expédition Citroën Centrafrique, deuxième mission Arc ou loin du Breuil, connue sous le titre de croisière noire, qui traverse le continent africain d'Oran à Madagascar par le Tchad, la forêt équatoriale, et rapporte sur les pays alors primitifs une large documentation. Enfin, en 1929, un effort plus considérable encore est décidé. Une réunion de savants, d'ingénieurs, d'artistes ira de Beyrouth à Pékin, à travers la mystérieuse Asie centrale, et reviendra vers la France par l'Indochine, le Siam, les Indes, la Perse. Ce sera l'expédition Citroën Centre-Asie, troisième mission à Coudemont-du-Reuil, la croisière jaune.
Voilà, donc vous voyez, le prologue installe le propos, ce magnifique travelling qui nous permet de voir André Citroën traverser les usines Citroën comme la croisière va traverser l'ensemble du continent asiatique pour faire un banc d'essai absolument exceptionnel du matériel Citroën et également marquer la présence de la France sur tout le long du circuit de l'itinéraire. Alors cet itinéraire, c'est un itinéraire qui va se chercher. Au départ, la route devait passer plus au nord que ce qu'elle a fait et traverser la Mongolie soviétique. Et de nombreuses négociations sont menées par le Quai d'Orsay, puisque c'est une entreprise, effectivement, c'est l'expédition Citroën, mais le gouvernement français est à la manœuvre également pour tout ce qui est des négociations pour assurer, en fait, le parcours de l'expédition. Alors, négociations avec le gouvernement des Soviets, avec le roi Amoula en Afghanistan, le prince de Galles pour la traversée de l'Inde, le roi Reza Shah pour ce qui est de la Perse, toutes ces entités souvent antagonistes sont sollicitées. Bien évidemment, après, il faut négocier le passage en Chine. Et là, le problème est encore plus crucial puisqu'il n'y a pas un interlocuteur en Chine. Le nord de la Chine est aux mains des seigneurs de la guerre et notamment du général Qin, dont on aura peut-être l'occasion de reparler. Le sud, Chiang Kai-shek et Mao sont également à la manœuvre. Donc, diplomatiquement, si vous voulez, il y a nombreuses tractations qui font que, en fait, la croisière ne passera pas par l'Union soviétique, mais passera par une route plus au sud, qui est la route qui est là sur la carte la plus au nord, mais on devait même aller beaucoup plus au nord. Un trajet qui va se définir au cours de l'année 1930. Et qu'il était important, si vous voulez, de fixer cet itinéraire, puisque bien évidemment, des voitures, ça roule avec de l'essence, et que de l'essence, il n'y a pas des pompes, bien évidemment, tout au long de ce parcours. Et donc, il fallait organiser le ravitaillement des voitures et organiser des dépôts d'essence pour que les voitures puissent régulièrement trouver de quoi se ravitailler. Donc, si vous voulez, avant l'expédition, il y a eu tout un travail aussi souterrain. C'est quasiment le cas de le dire, parce que souvent, ces réserves sont enterrées pour éviter les pillages, notamment en Mongolie chinoise, pour que l'expédition puisse avancer. Vous voyez également sur la carte qu'il y a un trajet de retour au sud. Hein. Donc, on longe la côte est de ce qui est alors l'Indochine et après la traversée du continent indien et le sud de la Perse, alors que le voyage aller passe au nord. Et en fait, l'expédition va s'arrêter en Indochine, suite au décès du chef d'expédition, Georges-Marie Hart, qui va décéder en avril 1932 à Hong Kong. On va en reparler, et qui va en fait mettre un point final à la croisière jaune. On finit le tournage des images en Indochine et le groupe va rentrer sans traverser l'Inde. Voilà, donc un parcours qui va qui a du mal à se fixer et qui voit une grande partie de son chemin avorté de par la fin dramatique de Georges-Marie Hart. Alors, la Croisière Jaune, c'est une équipe. Elle est dirigée par Georges-Marie Hart, qui est vice-président de Citroën, et Louis Audouin Dubreuil. Ils ont ensemble fait les deux croisières précédentes en Afrique, et ils vont solliciter un certain nombre de mécaniciens, au départ de cinéaste aussi, puisque c'est Léon Poirier qui a été au départ sollicité pour accompagner cette aventure. Mais Léon Poirier est est en train de tourner un film à Madagascar et les dates ne correspondent pas, donc il ne peut pas accompagner la croisière jaune. On va plus ou moins solliciter Jean Grémillon également, et c'est finalement André Sauvage donc qui va être choisi. Alors il y a également, vous pouvez voir parmi les techniciens, les mécaniciens qui accompagnent la croisière, Kégrès, qui est le neveu de l'inventeur des auto-chenilles. Alors donc, le petit, c'est Audouin Dubreuil, le grand, c'est Georges-Marie Hart. Il y a également Alexandre Yakovlev, qui est le peintre dessinateur de l'expédition. Il est lui aussi de la croisière noire, et il fera un très grand nombre de dessins au pastel et à l'aquarelle des membres de l'expédition, mais aussi des personnalités, des personnages rencontrés. Et il fera également des relevés, des fresques sur les sites archéologiques, notamment en Afghanistan, en Perse et également en Mongolie. Vous pouvez d'ailleurs actuellement au musée Guimet voir une photo de Yakovlev et de Joseph Akin à l'occasion de l'exposition qui est actuellement sur l'Afghanistan au musée Guimet, puisque ils ont donc travaillé ensemble. Joseph Akin est un des scientifiques qui est sollicité donc par l'équipe de la croisière pour accompagner les expéditionnaires en Afghanistan et les piloter, et notamment à Banyan, qui était un des terrains de Joseph Akin. Joseph Akin a travaillé au Japon, et en 1934 il prendra la direction de la DAFA, hein, la délégation archéologique française en Afghanistan. Akin a eu également avec sa femme Ria un destin tragique, puisque en 1940 ils rejoignent le général de Gaulle à Londres, et en 1941 leur bateau est torpillé au large des îles Féroé, et ils périssent avec Jean Carl, leur ami et assistant, dans ce torpillage de leur bateau. Autre grande personnalité, le père Teilhard de Chardin, jésuite, géologue, paléontologue, spécialiste de la Chine. Et puis Georges Lefebvre, l'historien de la croisière, qui va être le correspondant de l'illustration, envoyer régulièrement des articles pour que les lecteurs de l'illustration puissent suivre le voyage. Et puis Victor Point, jeune lieutenant de vaisseau, brillant, qui va prendre la direction du groupe Chine, hein, puisque la croisière va se séparer en deux groupes. Un groupe qui va faire le chemin de Beyrouth vers Pékin en traversant les Pamirs, et l'autre groupe qui partira de Tientsin et qui ira à la rencontre de l'autre groupe en Mongolie. Donc Victor Point est une des personnes qui justement organise cette partie de ravitaillement, et il prend donc la direction du groupe Chine. Ce groupe va être fait prisonnier par justement le maréchal King dont on parlait tout à l'heure, le général King, et il y aura des tractations qui se solderont par l'envoi de deux véhicules Citroën en échange de la libération du groupe. Alors, lui aussi, Victor Point va connaître un destin tragique, puisqu'il se suicidera dans l'été qui suit le retour de la croisière, l'été 1932. Et puis également, autre personnage, Maynard Owen Williams, qui lui est américain, c'est le correspondant du National Geographic, qui va lui aussi envoyer des recensions de la croisière à son journal, qui publiera un très, très important dossier sur la croisière, qui permettra en fait là aussi une connaissance de cette expédition, des résultats de l'expédition aux États-Unis. Là, c'est une volonté d'expansion internationale, bien évidemment. Ce n'est pas qu'une affaire française que la croisière jaune. Et puis il y a quelqu'un également comme le docteur Jourdan qui accompagne la mission et qui est aussi quelqu'un de tout à fait intéressant qui va profiter du voyage pour soigner les membres de l'équipe. Un tel voyage n'est pas sans mots, mais également il va soigner à plusieurs reprises des gens qu'ils vont croiser, opérer des tumeurs, des lésions aux yeux, enfin des opérations qui se passent dans des conditions tout à fait compliquées et que il n'aura pas peur de mettre en œuvre, et en général avec succès. Et puis eh bien il y a l'équipe cinématographique. Donc c'est André Sauvage qui est donc le cinéaste de l'aventure. André Sauvage a fait jusque-là plusieurs grands documentaires, notamment film sur l'ascension du Grépon, un film d'escalade absolument étonnant pour l'époque, puisqu'il fallait monter le matériel cinématographique jusqu'en haut des sommets. Malheureusement, il reste plus que 3 minutes de ce film. Sauvage ayant envoyé aux États-Unis le négatif pour des tirages de copies américaine, et le négatif n'est jamais revenu et s'est perdu aux États-Unis. Il fait un voyage en Grèce en bateau avec son épouse, et ça fait un magnifique documentaire qui s'appelle Les îles, donc tout autour des îles grecques. Et là, assez naïvement, c'est en Allemagne qu'il envoie son négatif et les copies, et la copie qui a été tirée, et là aussi ils disparaissent. Là, on a un peu plus d'images que vous pouvez découvrir en complément du très joli coffret déjà édité par Carlotta, des études sur Paris, qui est le grand film de Sauvage qu'il nous reste, qu'il sort en 1928, 5 études sur Paris, sorties en épisodes, 5 courts-métrages qui sont rassemblés donc en un long-métrage documentaire, et qui nous permettent de traverser Paris du nord au sud, d'est en ouest, par des chemins traditionnel, mais également de découvrir, et c'est ça qui fait son originalité, le peuple de Paris, les marchandes de 4 saisons, les clochards, la façon dont les Parisiens circulent dans Paris, et puis la circulation, hein, c'est l'époque des symphonies urbaines, de cette fascination que le cinéma a pour le mouvement urbain. On peut dire que Henri Sauvage y succombe un peu aussi, mais toujours avec un point de vue tout à fait personnel et très souvent humoristique. Donc un magnifique film qui a certainement attiré l'attention des équipes de Citroën et de Pathé pour lui faire cette proposition de participer à la croisière jaune. Alors au moment où il est sollicité, il est sur alors outre la perte de ses négatifs, il est sur deux échecs qui ont mis à mal ses finances, puisqu'il est en même temps son propre producteur. Un film qui s'appelle Pivoine des ménages, qui est un des premiers films sonores français qu'il tourne avec Michel Simon. Pivoine est un clochard qui vit au bord de la Seine et qui doit déménager suite à une crue de la Seine. Donc c'est un court-métrage. Le système son utilisé fonctionne. Nous avons les essais d'André Sauvage. Le film est tourné au Vieux Colombier et à ce moment-là, le système ne marche pas. Donc le film ne pourra pas sortir. Premier échec. Deuxième échec, il participe avec Jean Chou au tournage, à la réalisation de Jean de la Lune. Et les deux hommes, visiblement, ne s'entendent pas. Et le film sortira sans le nom d'André Sauvage au générique. Donc il se retrouve dans une situation financière difficile et il accepte la croisière jaune aussi parce que pour lui, pour sa société et pour sa famille, c'est une bouffée d'air frais et une perspective de relance de ses activités cinématographiques. Alors il est accompagné par deux hommes d'expérience que sont Georges Spech, qui est photographe initialement, puis opérateur attitré de Léonce Perret chez Gaumont. Il commence sa carrière en 1910 en cinématographiant un Molière, qui est interprété par Abel Gance. C'est sa première apparition à l'écran. Et il filmera pour Abel Gance le film fantastico-comique Au secours, réalisé avec Max Linder. Il accompagnera Jacques Feder aussi sur le tournage de l'Atlantide, Marcel L'Herbier sur Eldorado et Élie Numen. Et il est également de l'aventure de la croisière noire avec Léon Poirier. Donc vous voyez, quelqu'un d'expérience qui connaît également le tournage sur des terrains compliqués. Autre homme expérimenté, Léon Morizet, lui commence sa carrière en 1919 chez Gaumont, aux côtés de Louis Feuillade, donc il sera le chef opérateur jusqu'à son décès. Puis il tournera avec René Le Sommetier, Le Petit Parigot en 1929 et Le Bled également avec Jean Renoir. Et à côté de ces deux hommes d'expérience, William Civelle, lui il est tout jeune, il est électricien au Ciné-Roman à Joinville et il le dit sur un au culot, il se fait engager comme ingénieur du son pour la croisière jaune. Et c'est un coup d'essai, mais qui sera suivi de très nombreux films, puisque William Civelle finira sa carrière en recevant le César pour le son sur La Passante du Sans-Souci. Donc vous voyez une carrière vraiment tout à fait importante. Mais il en est à ses débuts, au moment de la croisière jaune. Alors, pour filmer, il faut du matériel. Et c'est là où Pathé va essayer de trouver le matériel le plus moderne qu'il soit pour accompagner cette aventure cinématographique. Alors Pathé, dans l'accord avec Citroën, vous le verrez, prend en charge financièrement la totalité du volet cinéma, c'est-à-dire matériel, rémunération des techniciens, donc du groupe de réalisation, bien évidemment la pellicule, leur nourriture, également. Hein, Citroën facture leur nourriture à pâté. Et tous les frais divers, vous verrez le devis tout à l'heure. Mais d'abord, c'est une question de matériel. L'expédition fournit des châssis sur lesquels pâté va insérer, vous voyez, le matériel cinéma. On trouve ainsi dans les archives hein, de la Fondation Jérôme Sédou-Pathé quelques entrefilets qui nous montrent un petit peu la teneur des relations. Nous vous paierons à la livraison les voitures spéciales qui nous sont destinées et nous vous rembourserons au fur et à mesure de vos demandes le salaire, la nourriture et tous les frais d'équipement et frais divers se rapportant directement au personnel affecté aux deux voitures cinématographiques. En échange, le pâté pourra utiliser des extraits de prises de vue dans les actualités pâtées, réaliser également deux films de 3000 mètres qui seront montrés par Georges Marie Hart et le metteur en scène désigné. C'est une lettre qui date du 24 juillet 1930, donc à cette date-là, le réalisateur n'est pas encore connu. Et Pathé aura la distribution de tous les films provenant des négatifs pris au cours de la mission. À cette époque, on pense quand même que c'est Léon Poirier qui sera le réalisateur. Pathé organise une mission, un voyage d'études techniques aux USA en février 1930 pour sélectionner le matériel sonore qui sera embarqué. En lice, le matériel de la Western Electric, le Newsreel Equipment, et le RCA Photophone Newsreel Equipment. Certainement Brühl, qui était un chef technique chez Pathé, fait une conclusion de ce banc d'essai. Il écrit « Il ressort de l'examen de l'appareillage et de l'audition des enregistrements que le Newsreel Equipment de la Western Electric est nettement supérieur à l'appareil similaire de RCA et que, intelligemment utilisé, il est susceptible d'approcher l'actuelle perfection, au moins en ce qui concerne le son. » Ce rapport, donc, évane certainement de Brühl, mais il ne sera pas suivi d'effet puisque c'est le matériel RCA Photophone qui est commandé et qui sera livré accompagné de deux caméras Mitchell et de 15 objectifs différents qui doivent être montés sur ces caméras. Alors, autre technicien chez Pathé, monsieur Roussel, rappelle en octobre 1930, vous voyez, quelques mois plus tard, que bien, cet équipement est très fragile, qu'une erreur dans l'ouverture du diaphragme peut avoir des conséquences graves, puisqu'il est impossible de corriger cette erreur par un développement spécial. Les conditions de développement sont absolument fixes. Donc, vous voyez que l'utilisation de ce matériel doit être très précise, très précautionneuse, et que les conditions de tournage, on va le voir, qui seront celles de l'équipe cinéma, ne seront peut-être pas toujours favorables à l'attention que nécessitait ce matériel. La pellicule et de la pellicule Kodak, ainsi que les portés-films, c'est-à-dire les négatifs photographiques utilisés par l'équipe. Donc, en novembre 1930, un correspondant également de chez Pathé alerte Jacques Pathé sur la nécessité d'utiliser d'autres appareils automatiques, des Bellowell Emo et des jeux d'écran compensateurs. Donc, deux nouvelles caméras sont achetées, des Emo modèle 71C. Donc, on va avoir quatre caméras et quatre caméras différentes, ce qui fait qu'on aura une matière également un petit peu hétérogène, donc ce qui pourra expliquer aussi certaines difficultés après au montage. Et également, les services techniques insistent sur la nécessité pour les trois cinéastes de venir se familiariser avec ce matériel avant l'expédition. Et ils sont invités à aller au studio à Joinville pour prendre en main ce matériel. Alors, vous avez là le devis hein, de l'expédition Le Devis Cinéma. Donc vous voyez, au total, il y en a pour 5 millions de francs. Ce qui est une somme absolument faramineuse pour l'époque. Donc il s'agit bien d'une super production cinématographique, une super production documentaire. Alors quelques lignes un petit peu surprenantes, mais qui se révéleront utiles. Armes et munitions. À un moment donné du voyage, des armes seront distribuées aux membres de l'équipe, hein, dans certaines parties de la Mongolie chinoise. Des coups de feu sont échangés, des impacts de balles seront découverts sur certaines voitures. Et la maison Pathé avait anticipé le problème. Voilà, donc vous voyez le transport, le matériel, l'essence, lui, la graisse, hein, pour les voitures. Donc tout est envisagé pour permettre à l'équipe de pouvoir fonctionner. Et également, bien évidemment, les émoluments des cinématographistes sauvages, en chef d'équipe. Donc il y a un salaire prévu pour la période d'expédition et un salaire moindre pour le temps de préparation et le temps de montage à Paris. Donc Georges Spech et Léon Morizet, eux, ont Morizet a un salaire prévu uniquement dans l'expédition, Spech également sur la préparation. Et Civelle aura un contrat un peu différent, puisqu'il est tout jeune et également juste embauché pour la période de tournage. Donc voilà le contexte un petit peu technologique et économique. Vous voyez que quand on investit une telle somme, on a aussi des attentes. Et on va voir maintenant les équipes doivent affronter. Alors, il y a bien évidemment la géographie. Vous avez là juste le profil, hein, de la région du Pamir. De nombreux cols doivent être franchis. Donc le matériel automobile, mais également le matériel cinématographique, doit avoir à supporter ces variations de température. Les caméras gèlent en Mongolie. Les voitures sont obligées, par exemple, la nuit d'être tout le temps allumées, les moteurs de tourner pour que les équipes puissent dormir en fait dans les voitures. Ils se relayent pour se réchauffer à l'intérieur des voitures. Donc vous imaginez ce que ça donne au niveau du matériel. Donc il y a aussi à affronter les dénivelés, le démontage du matériel, parce que les auto-chenilles, c'est très très bien, mais les auto-chenilles doivent être démontées, les voitures désossées pour franchir les plus hauts cols à la fois du Palmyre et puis après en Mongolie. Donc la montagne, première, on va dire, ensemble d'épreuves à affronter. Le froid. Qui est rencontré en montagne, mais également dans la plaine mongole, au moment aussi de traverser le fleuve jaune. Vous voyez là une des voitures, hein, qui manque de disparaître dans un trou d'eau. Hein, elle traverse la glace, l'équipe est obligée de développer un tas de stratagèmes pour arriver à la sortir de l'eau. Donc la montagne, le froid, mais aussi le vent et le sable. Et l'équipe, et ça c'est ce que va révéler les lettres justement d'André Sauvage, une très grande partie du temps de l'équipe cinéma va être consacrée au nettoyage du matériel, parce que le sable s'insinue dans ce matériel qui est excessivement fragile, même s'il est enfermé dans les caissons, la voiture caisson, hein, vous voyez, ça c'est la voiture cinéma. Le sable s'insinue partout, les couloirs doivent être nettoyés, mais malgré tout, la pellicule va être rayée. Il faut donc affronter ces éléments et faire du cinéma malgré tout. Et puis autre élément également auquel il faut faire face, la guerre. Ce sont les combats entre les différents seigneurs de la guerre, la prise d'otages de l'équipe de points, mais aussi la guerre sino-japonaise autour de Shanghai, la première guerre qui figure dans certaines images qui seront prises. Donc c'est la croisière est témoin de certaines exactions de la part des seigneurs de la guerre et également doit faire face à certaines interdictions de tournage. Le général King ne veut pas que l'on tourne, donc certains stratagèmes de prise de vue doivent être déployés pour arriver à voler quelques images. Donc tous ces éléments pour expliquer un peu les difficultés de tournage, l'insatisfaction souvent des équipes de pâté à la réception des films. Alors là aussi, les films ils ne sont pas développés sur place. À chaque grande étape, Srinagar, Urumqi, il y a des correspondances qui prennent les bobines impressionnées, les amènent à Paris, où elles sont développées, et il y a un compte-rendu de tournage qui est envoyé à André Sauvage par une autre navette, par le courrier, hein, qui le trouvera à l'étape suivante, trois semaines, un mois souvent, après l'expédition des bobines. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, la réactivité, en fait, n'est pas immédiate, hein, on n'est pas dans la réactivité qu'on connaît aujourd'hui, hein. Il faut un mois et demi souvent pour que bien justement certains réglages soient faits. Donc ce qui va expliquer aussi que vous le verrez sur les 50 000 mètres impressionnés, eh bien au final on en a beaucoup moins qui sera exploité. Alors tous ces éléments donc font que on a un ensemble d'images et de sons, puisque ça devait être ça quand même la grande nouveauté du film, hein, du son direct enregistré avec donc ce matériel qui est venu spécialement des États-Unis. Il va y avoir en fait des éléments tout à fait hétérogènes qui vont se retrouver à constituer ces rushs. Donc déjà deux groupes, hein, le groupe Chine et le groupe Pamir. Le groupe Chine va très peu filmer en fait, puisqu'il se retrouve très rapidement pris en otage avec une interdiction de tourner. Des caméras donc différentes, hein, les Mu et les Mitchell. Bien évidemment des conditions donc différentes entre les deux équipes, hein, en termes, on va dire, géopolitiques et géographiques. Cette impossibilité de prendre connaissance des rushs, et puis et là aussi c'est ce que nous révèlent les lettres d'André Sauvage, très rapidement une inadéquation, si vous voulez, du rythme de la croisière, hein, du rythme de l'expédition et des ambitions esthétiques et documentaires d'André Sauvage et de son équipe. C'est assez contradictoire puisque les chenilles en fait roulent très 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 doucement. Ils font parfois un maximum en général 40 km au maximum par jour, ce qui est vraiment très peu. Mais à côté de ça, ils ne peuvent pas. Ils sont astreints à suivre l'itinéraire fixé par Hart et, si vous voulez, les détours que souhaiterait faire André Sauvage pour aller sur tel ou tel lieu, filmer tel ou tel village ne sont pas possibles. Et on sent une frustration tout au long du voyage de ne pas avoir pu filmer ce qu'il aurait voulu filmer. Et il a l'impression de filmer beaucoup trop vite, de ne pas prendre assez de temps pour filmer telle ou telle séquence. Alors, malgré tout, du côté de Pathé, à la réception, par exemple, on va trouver qu'il y a beaucoup trop d'images qui sont, par exemple, faites sur des fabrications de tissus, par exemple, d'ailleurs des images que l'on n'a plus, qui n'étaient peut-être pas de bonne qualité, mais en tout cas qui ne sont pas parvenues jusqu'à nous. Donc, il y a à la fois des demandes de Pathé sur des sujets assez précis, cette course en avant de l'expédition et cette volonté aussi des cinéastes de faire leur travail de cinéma, leur travail documentaire. Alors, au final, qu'est-ce que l'on a ? Eh bien, donc, 50 000 mètres de pellicule qui sont impressionnés, mais on est très loin, en fait, du résultat. Alors, pourquoi ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Donc, pourquoi, déjà, ces problèmes techniques, des images floues, des images rayées, des plans trop brefs Et puis commence au retour l'aventure, la deuxième aventure de la croisière jaune, c'est celle du montage des images. À partir de mai 1932, André Sauvage va commencer à monter donc ce matériel assez hétérogène. Il va faire un premier montage qui, pour lui, le film devait être en fait muet. Il fait un premier montage avec des intertitres en commandant une musique à Maurice Jaubert. Et le film ne convient pas ni certainement à Pathé ni à Citroën, et on lui demande de revoir le montage et de faire un montage, cette fois sonore. Il va donc se remettre à la table et livrer un deuxième montage. On est courant 1933, et ce montage ne va pas non plus satisfaire Citroën. Et à ce moment-là, c'est là que se noue le drame d'André Sauvage. Il va être démis de sa mission de montage du film, il va être débarqué, licencié, et toutes les images vont être livrées à Léon Poirier, qui a fini son tournage à Madagascar et qui reprend la main sur les images. Donc cette matière va être donc retravaillée et donnera donc lieu à ce que vous verrez tout à l'heure à 8h, qui est donc La Croisière jaune, montée par Léon Poirier à partir des images tournées par l'équipe d'André Sauvage. Et il y aura un deuxième film, donc le film sort en 1934, il est présenté à l'Opéra de Paris et il a une presse formidable. Le film va beaucoup circuler et il sera suivi d'un court-métrage réalisé avec les très nombreuses images tournées par André Sauvage, Spech et Morisset au pays Moy, donc dans le nord aujourd'hui du Vietnam, qui s'appelle « Dans la brousse annamite ». Et ensuite, André Citroën licencie André Sauvage et rachète en fait le film à Pathé. Donc c'est Citroën qui a la mainmise sur les images et qui va en fait en vendre. Et on retrouve trace de ces images dans trois courts-métrages, deux qui sont composés par Géo Kelber, un qui s'appelle La Perse qui sort en 1938, l'autre L'Afghanistan, et puis un film qui n'est pas signé qui lui sortira en 1939 qui s'appelle Images indochinoises. Donc j'ai mis, vous voyez, des petites couleurs pour bien séparer la façon dont ces images en fait circulent. Hein, des 50 000 mètres de pellicule, il y a ces montages faits par Sauvage, donc c'est en mauve. Puis les montages faits par par Léon Poirier, et puis bah, cette circulation des images qui donne ces trois documentaires. Et puis, de nouveau en mauve, ce sont les chutes, les images que André Sauvage va conserver par-devers lui et qui va déposer dans les années 70 au CNC et qui sont une sorte de contrepoint des montages fait par Léon Poirier. Donc, vous voyez une situation juridique très complexe. André Sauvage va se battre pour la reconnaissance de ses droits. Le syndicat des réalisateurs de films va s'emparer de cette affaire, mais il n'aura pas gain de cause et sa carrière cinématographique va s'arrêter là. Les images de La Croisière jaune sont les dernières filmées par André Sauvage. Il va devenir agriculteur. Il va faire un retour à la terre et ne plus jamais parler de cinéma. Et jusque dans les années 80, où il acceptera d'être filmé justement sur son domaine. Et ce sont des images assez émouvantes que vous pouvez aussi découvrir sur l'édition de Carlotta, donc de voir Sauvage au milieu des objets qu'il a ramenés de ses différents voyages, mais aussi avec son tracteur, loin de toutes ces préoccupations. Alors, quelles étaient maintenant maintenant, on va rentrer dans la cuisine, on va dire la cuisine de la restauration. Quel est le matériel, en fait, que l'on a à notre disposition? Donc, sur ce qui s'appelle la croisière jaune, donc le montage de Léon Poirier, vous le voyez, on a nombre de copies de contre-types combinés, c'est-à-dire un élément image négatif avec du son sur la même pellicule, des contre-types, donc là, sans le son, un internégatif destiné au tirage en couleur d'une séquence, des négatifs son en version originale, c'est-à-dire en français et puis en anglais, trois positifs avec du son combiné, des copies muettes de travail, notamment celles donc du matériel conservé par André Sauvage, et cette positif son également de travail, cette copie de travail. Donc vous voyez en tout 47 éléments de longueur variée qui appartiennent à ce titre, La Croisière jaune, et c'est tous ces éléments que Cécile Rogue va analyser, regarder, et qui nous ont permis en fait de sélectionner l'élément qui va servir à la restauration. Et puis à côté, hein, la circulation des images, les images indo-chinoises, 14 copies sonores, un contre-type, un négatif son, la Perse, 3 copies sonores, une copie muette, que je soupçonne peut-être d'être le montage voulu par André Sauvage. Et l'Afghanistan, une copie sonore. Et dans la brousse à Nami, deux copies sonores, deux contre-types, un contre-type sonore, un contre-type combiné. Et le point commun de l'ensemble de ces images, c'est pas de négatif. Donc il faut arriver à trouver bien les éléments les plus proches malgré tout du négatif qui vont permettre la restauration. Alors ben, c'est ce travail donc qu'ont fait mes collègues. Vous voyez une des fiches faites par Cécile. Hein, c'est un travail minutieux là vous voyez d'analyse plan par plan qui permet bien de savoir ce que l'on a sur ces nombreuses copies. Donc là vous voyez deux copies différentes. Une troisième. Et souvent également des comparaisons. Là, on a un élément qui est l'élément qui a servi à la fabrication de la version en pâté bibi. Donc, vous voyez, pâté a exploité le film en pâté bibi. Et puis, donc, des éléments comparatifs. Donc vous voyez tout le travail minutieux hein, qu'il faut mener déjà avant même d'envisager la restauration proprement dite. Il y a ce qu'on appelle cette phase d'analyse hein, qui oblige à passer l'inspection de tout le matériel que l'on a. Alors parfois on n'a rien, hein, on a une copie, donc là je veux dire c'est assez simple, mais là vous voyez, alors quand je parlais tout à l'heure de 47 éléments, la moitié d'entre eux, il y avait 10 boîtes, donc ça fait à peu près autour de 550 boîtes de pellicules qui ont été ouvertes et auscultées avec attention. Et donc tout ce travail a permis bien de sélectionner le positif image combiné, donc tiré très probablement du négatif qui était conservé par la Cinémathèque française pour faire le travail de restauration. Alors au milieu de tous ces éléments, si vous voulez, il y a un choix technique de matériel, mais il y a également un choix, on va dire, plus intellectuel, de savoir effectivement qu'est-ce que l'on allait restaurer. Vu le contexte aussi juridique, un film monté, enfin des images appartenant à André Sauvage, monté par Léon Poirier, film exploité, le public dans les années 30 n'a connu, n'a vu, et ce film a circulé dans les années 50, les années 60, n'a connu que ce film. Donc il était important de le restaurer. Donc on a choisi de restaurer le montage de Léon Poirier, sans pour autant oublier qu'il y a également bien toutes ces images d'André Sauvage. Donc, il y a eu un travail de restauration qui a été mené au laboratoire Iventi autour donc, de ce positif image combinée, donc, qui restitue ce film qui a circulé donc, dans les années 30, et puis également un travail autour des autres images pour essayer effectivement de voir comment ces images ont pu circuler. Par exemple, les images indochinoises, vous avez vu, il y avait 19 copies. Ce film a circulé en fait dans les instituts français. Il a voyagé à travers le monde dans les années 50 et les années 60. Voilà. Donc c'était important aussi que ces courts-métrages puissent être vus par le public. Donc ils ont été aussi restaurés à partir des éléments, des contre-types également par le laboratoire Iventi. Et puis il y avait donc le statut de ces chutes conservées par André Sauvage. Et c'est là qu'on s'est dit que peut-être la meilleure façon de restituer bien ce qu'avait été cette épopée cinématographique, c'était peut-être d'essayer de retracer la totalité du voyage en faisant un bout à bout en fait de toutes ces images et de suivre chronologiquement le mieux possible du départ de Marseille jusqu'à Colombo, puisque c'est à peu près les dernières images que l'on a pu identifier. Donc là, il s'agit de... Alors, on n'a pas retravaillé, si vous voulez, on n'a pas extrait des images ni de la brousse anamite, ni du montage de Léon Poirier. Ce sont des films qui sont signés, donc qui restent des œuvres à part entière. Mais en revanche, on a travaillé à partir de la Perse, l'Afghanistan, les images indochinoises et des chutes d'André Sauvage. Et c'est comme ça qu'on a pu faire un montage, alors je préfère dire peut-être bout à bout, parce qu'on a essayé de garder les plans dans leur intégrité, puisque ça a restitué au mieux effectivement les choix esthétiques, les choix de cadrage et puis de sensibilité de Sauvage et de son équipe à la à la vie, au mouvement qui se déroulait devant, devant leurs yeux. Donc on a essayé de laisser, si vous voulez, ces éléments le plus brut possible pour faire ce que l'on a appelé donc, l'autre croisière, qui est ce voyage avec l'équipe. Alors, sur le Blu-ray édité par Carlotta, ces images sont brutes, elles ne sont pas restaurées. On a fait une numérisation 2K de ces différents éléments et que l'on a posé pour montrer justement la différence. Voilà, on restitue des images telles qu'elles nous sont parvenues avec leurs imperfections. Vous verrez certaines des traces du passage du temps. Aussi de la moisissure, de la décomposition, éléments qui ont été effacés en partie hein, de l'élément du film monté par Léon Poirier. Alors les chutes conservées par André Sauvage étaient particulièrement abîmées. Il les a gardées chez lui jusque dans les années 70, donc entre 1933 et 1970, donc quelque part certainement dans sa maison à la campagne. Donc des images qui ont dû souffrir plus que les images montées par Poirier qui ont été conservées avant d'arriver au CNC dans les laboratoires. Donc ce travail a permis de faire émerger quelques images assez, assez intéressantes, puisque on a pu partir, en fait, retrouver quelques plans qui ont été tournés en Égypte. Donc on dit que la croisière commence à Beyrouth, mais en fait le bateau part de Marseille et la première étape c'est Alexandrie, et l'équipe va remonter le Nil jusqu'au Caire, et on trouve quelques images égyptiennes, je pense, dans le film qui s'appelle Images indochinoises. Donc on va ensemble les voir. On va voir donc un petit fragment de Images indochinoises qui va vous montrer un petit peu comment c'était monté. Et donc c'est ces images qu'on a extraites, voilà, pour faire cette petite parenthèse égyptienne. Donc si vous pouvez envoyer le petit bout d'Images indochinoises. Donc là, on est dans la baie de Halong. Je crois qu'on est un peu loin. Je crois qu'on est un peu loin. C'était... Ah, pardon. Donc tout ceci est cohérent. Alors une des caractéristiques de Sauvage et qu'on voit déjà dans Études sur Paris, c'est son attention en fait aux hommes. Hein, il s'attache aux paysages, mais aussi aux hommes qui habitent ces paysages. Et il y a des portraits absolument incroyables, mais des portraits d'hommes au travail, des portraits d'hommes dans leur vie quotidienne. Et c'est ce qui fait tout le prix en fait de ce travail absolument incroyable de la croisière jaune. Alors, attention. Voilà. Là, on change de type de bateau. Nous sommes a priori près d'une felouque. Et nous revenons. Et de nouveau, alors vous voyez qu'on est loin des costumes indo-chinois ou chinois, que ce soit au niveau de la djellaba que du chapeau. Voilà, quelques plans volés qui permettent voilà, d'ancrer le départ de la croisière, non pas à Beyrouth, mais plutôt en Égypte. Donc ce travail de bout à bout, l'idée était de restituer ce mouvement du voyage, la variété des paysages traversés, la richesse donc, des portraits des hommes et des femmes rencontrés au fil du chemin, mais aussi des portraits des expéditionnaires, parce que... Sauvage s'est attaché aussi à filmer la vie, le quotidien de l'expédition. Également les missions en Mongolie qui sont assez peu présentes dans les autres montages, le théâtre de Pékin et également une très belle séquence d'échecs vivants au Laos. Enfin, échecs, hein, certainement on est très loin des règles des échecs, mais il y a un damier, des personnages qui jouent des pièces du jeu qui grâce à ce bout à bout nous sont révélés. Voilà, et pour finir, un générique de fin. Je pense que ce sont eux, les grands personnages de la croisière jaune aussi. Voilà.
Alors, merci beaucoup, Béatrice de Paste, pour cette très intéressante, passionnante plongée dans la matière aussi. On a le temps, je crois, pour avoir un petit échange avec la salle, si vous le souhaitez, bien sûr, s'il y a des questions, s'il y a des remarques. Oui.
Sont intéressantes peut-être au niveau de la réponse. Combien de temps a duré en fait, parce qu'on voit la durée du montage exigé qui est phénoménale, mais pour le long du parcours, enfin je veux dire, combien de mois pour simplement le voyage,
Le voyage dure 15 mois.
15 mois,
oui.
D'accord. 15 mois. Et puis alors l'autre, c'est anecdotique, mais c'est juste pour pouvoir essayer d'imaginer un projet comme ça aujourd'hui qu'on peut du mal. Vous parliez de 5 millions de francs,
oui.
Mais qui sont pour le matériel.
Tout, hein, le salaire des opérateurs, le matériel, leur nourriture.
D'accord, oui. Mais ce sont des francs anciens.
Oui.
Il faut rajouter 2 zéros.
Des francs or, oui.
Non, les francs... Parce que oui. moi, je suis assez senior, et j'ai connu les francs anciens, et avec une anecdote que c'était pas encore intégré, on savait pas trop l'équivalent, et j'étais étudiante, et la banque s'était trompée de 2 zéros, j'héritais d'un million, quoi.
Ouais,
voilà, donc là, j'ai été un peu bêtement honnête.
C'est pas des anciens francs des années 50, c'est des francs de 1930.
Alors, ça fait encore...
C'est une somme absolument colossale.
C'est colossal, voilà, parce que là, ouais. Donc, je veux dire, on...
C'est que le budget cinéma.
Oui, là, c'est juste... Moi, je me suis occupée que du cinéma.
Hein. Oui, j'entends. Ouais.
Donc, effectivement, hein, c'est une publicité qui coûte très, très cher. Hein, mais,
incroyable.
Voilà. Ouais.
Merci.
Mais ça a été aussi effectivement un outil, alors à l'époque on disait de propagande, hein, de promotion, des missions françaises effectivement archéologiques en Afghanistan, mais également de l'Indochine française. Hein, il y avait cette volonté de montrer aussi comment est-ce que la France était présente tout au long de cette route de la soie. Et le film de Poirier insiste aussi beaucoup sur la façon dont l'équipe est reçue à la fois à chaque fois par les gouverneurs. Enfin, il y a toujours des réceptions officielles qui insupportent beaucoup sauvages, parce qu'il faut s'habiller, il faut perdre du temps, faire hommage à tel ou tel dignitaire. Et il y avait c'est une mission aussi diplomatique, hein. C'est aussi une dimension vraiment importante, hein. C'est vraiment montrer la présence de la France tout au long du chemin et saluer les différents dignitaires, qu'ils soient légitimes ou pas très légitimes, parce que en Chine mongole, il va y avoir tout ce passage un peu compliqué avec certains seigneurs de la guerre. Alors vous la verrez tout à l'heure, oui, je voulais pas montrer là, parce que on la voit et on l'entend. C'est une des rares personnes qu'on entend. Voilà, c'est une princesse mongole qui était une femme vraiment extraordinaire, qui a été une autrice et qui, en fait, a fait ses études en France. Et en fait, quand ils arrivent pour la tournée, elle va l'interviewer. C'est Point qui parle un peu chinois qui vient l'interviewer. Elle va répondre en français.
Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres...
Oui, merci beaucoup pour cette présentation vraiment passionnante. Alors moi, j'avais en fait deux questions. Enfin, la première, c'est que tu as montré des photographies. Et donc, je voulais savoir justement s'il y avait des photographes autres que les personnels cinématographistes, en quelque sorte, ou les personnels de cinéma sur l'expédition. Et donc, si on avait des traces, des noms de ces photographes, parce qu'elles sont très belles, ces photographies, donc je trouve que ça vaudrait presque le coup. Enfin, il y en a certainement dans le livre, mais d'une exposition. Enfin, voilà, donc c'était vraiment là-dessus.
Alors,
déjà.
Là, c'est essentiellement des photogrammes. Oui, hein, je vous ai montré, et il y a énormément de photos.
Oui.
Le centre d'archives de Citroën, Terre Blanche, conserve énormément de photos qui ont servi d'ailleurs à illustrer les ouvrages d'Ariane Audouin-Dubreuil. Et également, tous les membres de l'expédition ont fait des photos. Sauvage également a fait de très nombreuses photos. Ils ont tous photographié et c'est très très bien effectivement documenté et en images qui bougent et en images fixes.
Et puis la deuxième question, c'est plus sur le film lui-même. Donc finalement, tu l'as dit, mais c'était pour que ça soit bien clair. Finalement, on n'a aucune trace donc ni du premier montage muet, ni du deuxième montage sonore, même pas un relevé ou un relevé de plan. Alors, ou un découpage, etc.
Il y a dans les archives de Sauvage, il y a des listes effectivement de plans, mais on n'a pas forcément le matériel qui va avec. Est-ce que c'est quelque chose... en plus, on ne sait pas à quel moment il a fait ces listes. Est-ce que c'était... Parce que on voit qu'il... Alors, il note très, très minutieusement tous les plans qui sont tournés. Et d'ailleurs, il y a une lettre de Jacques Pathé qui lui dit, c'est très bien, il y a de très, très belles images, mais nous, on ne sait pas ce que c'est. Alors, j'espère que vous avez bien noté, parce qu'autrement, ça va être terrible. Et il prévient. Et effectivement, Sauvage note vraiment tous les plans qui sont tournés. Et après, effectivement, il y a des séquences qui sont décrites. Mais est-ce que c'est des séquences qu'il pense pendant le voyage ou des séquences au moment du montage? Ça, c'est absolument pas... Voilà. Oui, alors effectivement, on pourrait essayer de monter les séquences d'après ces.
Non, mais
ces
ça, c'est assez fascinant. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de blanc archivistique.
Tout à fait.
C'est-à-dire
que, oui.
En fait, on a plein d'éléments, mais on n'a pas ce montage-là, oui. En fait, oui. Ou même pas de traces de ce montage, quoi.
Tout fait. À fait.
D'accord.
Et on n'a pas non plus de traces de négatif. C'est ça qui est absolument. Voilà. Où est passé le négatif? Alors, il a peut-être brûlé, effectivement, dans un des incendies voilà, qui jalonnent, effectivement, l'histoire patrimoniale du cinéma. Mais voilà, c'est, en tout cas, c'est un des problèmes de la restauration.
Et du coup, donc, les choix esthétiques que vous avez fait, enfin, esthétiques et de restauration que vous avez fait après, c'est en fonction aussi de ce que vous avez pu voir de sauvage à côté, c'est ça? Cette attention au portrait, c'est ça qui vous a permis de faire un choix de restauration de ce que vous saviez, le peu que vous en savez de sauvage.
Alors, quand on a fait alors, le film de Poirier, enfin, on a restauré le film. Pour l'autre croisière, en fait, on a essayé de ne pas faire de choix. C'était vraiment de restituer au maximum les images. Je pense que ça fait, je crois, 1 minute 45. Je crois que c'est à peu près. Je pense qu'on avait 4 minutes de plus, mais de petits bouts. Je ne savais pas où ça pouvait aller. Il y a certainement d'ailleurs des erreurs hein, de montage, parce qu'il y a des lieux qu'on n'a pas forcément, que je n'ai pas forcément identifiés, malgré le recoupement justement avec les photos. Les photos nous ont permis de d'identifier certains lieux, mais il y a certaines villes fortifiées en Afghanistan ou en Perse. Il se peut que je me sois trompée, ça sans aucun problème, parce que, je ne suis pas spécialiste de ces régions-là. Elles ont beaucoup changé. Et une muraille et une autre muraille, quand on n'est pas spécialiste, on est faillible.
Donc un bout à bout plus qu'un montage.
Voilà, c'est un bout à bout. Il n'y a pas eu de. Voilà, justement, c'est pour ça que je préfère dire de bout à bout que de montage, en fait. Parce que. Voilà, on a essayé justement de ne pas passer par le montage en mettant, nous, effectivement, un regard aujourd'hui, en sélectionnant en fait des images qu'aujourd'hui on trouverait intéressantes, justement, en privilégiant certaines plutôt que d'autres. C'était vraiment une volonté de restituer la richesse en fait de ce matériau filmique. Alors, on a coupé quand même, je pense, des petits bouts de plans dans la partie justement enfin des images de sauvages filmées en pays Moy qui étaient très 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 abîmées, très décomposées. Donc là il y a à peu près 30 secondes d'images qu'on a coupées qui étaient, voilà, il reste des images abîmées mais où on voit quand même de quoi il s'agit, ce qui n'était pas le cas de ces minutes là, de ces secondes là.
Et la musique, elle a été composée de Jobert ou...
Alors, la musique de Jobert a complètement disparu. On ne trouve absolument pas trace non plus de cette musique. Dans les archives de Jobert, qui sont déposées à la Bibliothèque nationale de France, quand on regarde l'inventaire, croisière jaune, ça n'existe pas. Et je me suis entretenue avec Marilyn Desbiol, qui a écrit une biographie romancée de Jobert à partir de la correspondance que Maurice Jobert échange avec sa mère, à qui il écrivait tous les jours. Et elle a lu ces centaines et ces centaines de lettres, et il n'est jamais question de la croisière jaune. Donc, voilà. La musique aussi est mystérieuse. Après, bon, là, il y a un compositeur d'une musique qui. Voilà, certainement, Maurice Jobert, c'était mieux. Alors, ce qui a été vendu, justement, ce sont les images. Enfin, Citroën a vendu des images, puisque, vous voyez, il y a la Perse, l'Afghanistan, les images indochinoises. Alors, ces trois films que j'ai pu identifier, si vous voulez, avec des images de la croisière jaune, il en existe peut-être d'autres, hein, mais que, pour l'instant, on n'a pas identifié. Enfin, j'ai vraiment peigné, les collections de la Cinémathèque française et du CNC, toutes les images contemporaines, si vous voulez, qui pourraient venir de la croisière jaune. Et pour l'instant, si vous voulez, je suis peut-être passée à côté de plans comme ça, insérés, si vous voulez, dans d'autres films. Ça, c'est possible. Alors que là, si vous voulez, c'est vraiment des entités vraiment complètes. Toutes les images, en fait, viennent de la croisière jaune. Hein, il y a des plans, enfin, qui sont dans la continuité de ce qui est monté dans le film de Poirier. Enfin, c'est tout à fait étonnant. Donc oui, il y a eu des ventes d'images. Comme on vend du stock shot aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé avec ces images. Oui, oui, les images ont été, les photographies ont été éditées. Alors moi, je vous ai amené l'édition de. C'est fort possible, oui. Ce que l'illustration. A publié également beaucoup de photos. Williams, dans le National Geographic, également, il publie également des photographies en couleur, alors, qui sont, je pense, pas des autochromes. Mais vous voyez, il y a énormément également de... Voilà. Ouais, qui sont des espèces de chromos un peu étranges. Voilà, il y a... vous pourrez le feuilleter si vous le souhaitez. Voilà, il y a eu beaucoup de presse illustrée qui s'est emparée de ces images, hein. Comme de la croisière jaune, que de la croisière noire, et également des dessins de Yakovlev. Hein. Il y a eu une exposition pour la croisière noire, hein, avec les dessins, les photographies, les objets ramenés d'Afrique. Ça n'a pas eu lieu sur la croisière jaune. Il n'y a pas eu d'exposition de la croisière jaune. Oui, c'est ce que j'ai dit. Hein. C'était dans le contrat Pathé Actualité. C'était à Roger la possibilité, enfin à Roger, enfin ils y payaient aussi. Ils étaient producteurs de la partie cinéma, de passer des séquences. Hein. On pouvait suivre également donc dans l'illustration, mais également dans les salles de cinéma l'avancée de la croisière. Oui, tout à fait. Mais c'est ce qui explique aussi pourquoi les négatifs ont disparu, parce que c'est ça qui est absolument passionnant, c'est cette circulation en fait de ces images qui au départ effectivement ont été créditées vraiment comme étant celles de la croisière jaune et puis petit à petit dont on a perdu l'origine en fait. Oui, elles sont en partie chez Gaumont, oui. On en trouve quelques-unes encore, oui, oui. Sur le site de GP Archives, on peut en voir quelques-unes, ouais. Mais qui recouvrent, c'est celle-là. Bon, après, il y a peut-être des plans, effectivement, qu'il n'y a pas dans l'ensemble de ces montages, c'est possible, hein. Mais pas de grandes choses exceptionnelles. Oui, mais vous avez vu la diversité du matériel encore conservé. Hein. C'est un pic. Ouais. Voilà, tout à fait. Qui est avec du son, mais qui est donc tiré d'un élément négatif. Donc on peut penser que c'était le négatif original. C'est pour ça qu'on a choisi, c'était l'élément le plus complet et a priori dans la chaîne de fabrication justement des éléments cinématographiques le plus proche du négatif, donc qui assurait une qualité la meilleure possible, même si les équipes d'IVNT ont eu beaucoup de travail, et vous verrez, on a choisi aussi de ne pas tout enlever Parce que, un, c'est pas possible, et deux, ça dénature souvent l'image. Et vu les conditions de tournage aussi, je pense que c'est bien de restituer aussi toutes ces conditions que j'ai évoquées, qui font que la matière filmique est aussi ce qu'elle est. Ça fait partie de l'histoire du film. C'est ça, à ça qu'il faut faire attention aussi quand on restaure, c'est de pas trahir cette matière filmique. Hein. C'est des images qui ont souffert dès le départ, si je puis dire. Et cette souffrance, je trouve qu'il faut qu'on la voit encore, quoi. Il faut qu'on se rende compte un peu de ce que c'était aussi que de faire ces images en 1930. Voilà.
Bien. Je pense que comme ça, on va faire une petite pause, peut-être pause sandwich pour certains. Enfin, en tout cas, l'important, c'est qu'il y ait un petit moment pour que vous puissiez venir voir le résultat de 10 ans de travail. Béatrice ne l'a pas dit, je crois, mais c'est un travail au long cours. Hein. Et donc, merci encore.
Oui, parce que je crois que Cécile a commencé à travailler en 2013 sur ces... Parce que j'ai trouvé des analyses datées de 2013. Voilà, donc, moi j'ai commencé à peu près à la même période, effectivement, à travailler sur les lettres d'André Sauvage.
Et c'est vrai que c'est très intéressant de voir ce croisement de la technique et d'un travail d'historienne, hein, et donc de voir combien la restauration est au croisement de tous ces savoirs et toutes ces compétences. Ouais. En tout cas, merci beaucoup,
merci à vous. Merci de votre
Béatrice
invitation.
De Pastre.